France Culture. Affaires culturelles. Arnaud Laporte.
Ce soir, je reçois Hortense Belhaute. Vers 19h45, le son du jour, nous écouterons Another Nine Days de Virgin. Vers 19h50, le grand tour de Marie Sorbier qui sera ce soir à l'abbaye de Noirlac, dans le Cher, un lieu qui propose aux visiteurs un parcours sonore réalisé par des artistes contemporains pour ressentir pleinement l'esprit du lieu. Le tout est réalisé par Alexandre Fougeron avec Florent Bujon, la prise de son. Bonsoir Hortense Belhaute.
Bonsoir.
Vous venez d'ouvrir votre cahier. Tout neuf. Page blanche, un stylo. Non, il y a déjà quelque chose écrit.
Il y a déjà deux pages écrites.
Oula. C'est le début de quoi ? Une nouvelle conférence ?
Non, c'est le début des problèmes. Non, je le prends juste au cas où si je pense à quelque chose de fulgurant et que j'ai besoin de le noter à côté.
Très bien. Très riche actualité qui nous donne l'occasion de vous recevoir. Le public a plusieurs rendez-vous avec vous dans les jours, les semaines, les mois qui viennent. Portrait de famille, les oubliés de la Révolution française, lundi 22, mardi 23 avril, ce sera à 15h15 et à 19h, dans le cadre du programme Hors les murs du théâtre de la Bastille, ce sera au lycée polyvalent Simone Veil sur le site François Truffaut. Histoire de graffeuse, c'est même avant, puisque c'est le 17 avril, c'est-à-dire après-demain, à Montataire, le 19 ce sera à Amiens, et puis à la rentrée, le 4 septembre, aux Beaux-Arts de Rennes, certaines et certains pourront suivre le 25 avril vos visites performantes dans les collections permanentes du musée d'Orsay, l'Escape Game 19, mais c'est complet. Mais plus tard, du 30 mai au 2 juin, toujours au musée d'Orsay, vous performerez dans l'auditorium. Et puis il y a aussi l'histoire, une histoire du football féminin, 14 juin à Chaillot. Le 15 juin, ce sera Ella Marmotte, toujours au Théâtre National de Chaillot, à Paris. Une histoire du football féminin aussi, le 28 septembre à la rentrée à Pont-Évêque. Et pour rappel, pour celles et ceux qui ne peuvent voir aucun de ces spectacles pour des raisons diverses, il y a votre web-série, Merci de ne pas toucher, deux saisons toujours visibles sur arte.tv. Bon, voilà, on a presque fini l'émission, je redirai tout ça à la fin en plus. Mais on va comprendre que votre pratique se nourrit de deux vocations que vous avez fait se rencontrer, entre l'un et l'autre, deux vocations, car l'une ou l'autre ne vous correspondez pas totalement, c'est un cas rare, ça fait de vous aussi une artiste rare, précieuse. Vous avez en effet fait une licence d'histoire de l'art, en parallèle une formation en art dramatique dans un conservatoire d'arrondissement. Vous avez enchaîné avec un master d'histoire de l'art à Nanterre, sans lâcher la scène pour autant. Vous serez ensuite et professeur et comédienne, deux activités en même temps, avant de les faire se rejoindre, on va bien sûr en parler. Mais avant cela, qu'est-ce qui a fait dans votre enfance, votre adolescence, que vous avez eu ce goût pour l'art et ce goût pour la comédie ?
Le goût pour la comédie, il s'est révélé que très tard. J'ai commencé un cours de théâtre à 17 ans, je crois. Et vraiment par hasard et de la manière la plus traditionnelle du monde, la prof de français qui demande d'apprendre une scène de Molière. Et puis je me rends compte que j'aime beaucoup ça. Et puis les gens dans la classe me disent « Eh, c'est super, tu dois faire du théâtre ». Voilà. Une histoire d'une banalité étonnante. Bon. Et après, il se trouve que j'ai continué et que j'aimais beaucoup. L'histoire de l'art, ça c'est un peu plus tôt. Et j'habite Paris, je suis née à Paris et mes parents aimaient bien ça, donc je pense qu'il y a quelque chose qui m'a. J'ai vu des expos très jeune.
Des livres d'histoire de l'art.
Alors non, les livres non. Non, là vraiment, là, non. L'histoire de l'art. Une des raisons de l'histoire de l'art, c'est que j'aimais pas vraiment lire. C'est que c'est quand même les images.
Ouais.
Donc ça, c'est un choix qui a été aussi très rapide. C'est que, mais c'était aussi de l'histoire de l'art par de la pratique vivante, on va dire. Donc visiter des musées. Ma mère travaillait derrière le Palais de la Porte Dorée. Elle était prof et donc on allait parfois. Bon bah, en échange d'aller voir les masques africains, on allait aussi voir les crocodiles. Et puis parfois, on allait à Pompidou ou quand on partait en vacances, on était obligé d'aller visiter des trucs. Mais tout ça était dans une pratique très très physique, en fait. C'est vraiment pas les livres qui m'ont donné le goût.
C'est le contact avec les œuvres.
Ouais.
Alors, la comédie, le goût, ça vient vers 17 ans, dites-vous, mais quand même une petite Madeleine. La scène finale de Thelma et Louise, quand les deux femmes, poursuivies par la police, se retrouvent dans le Grand Canyon et que Thelma, Gina Davis, propose à Louise, Suzanne Sarandon, de se précipiter dans le vide avec leur voiture avant cela et un court baiser.
Okay, then listen. Let's not get caught. What are you talking about? Let's keep going. What do you mean? Go. You sure? Yeah.
Hey!
S'arrête la voiture dans le vide. C'est une Ridley Scott, Thelma et Louise, Hors Trains Velottes. Vous le découvrez quand vous avez une douzaine d'années. Je vois que ça a toujours de l'effet sur vous.
Ah non, mais c'est comme un rêve d'avoir passé cet extrait-là. Vous ne pouvez pas savoir ce que ça me fait. Parce que c'est... Donc, il y a la musique de Hans Zimmer derrière, que j'ai réutilisée dans une de mes confs d'ailleurs. Et puis j'avais oublié justement au son, il y a le dernier petit « d'Hervé Kettel qui...
Oui, qui les poursuit, qui veut pas...
Qui peut-être le meilleur personnage masculin de l'histoire du cinéma, et cette meilleure réplique masculine, le petit « est » derrière la décapotable. Et mon premier tatouage que je me suis fait tatouer sur l'épaule, c'est le « keep going » de la fin. Et donc ce « keep going », c'est vraiment décisif pour moi. Et décisif, pas tellement pour la comédie. Quand je vois ce film, je me projette pas du tout dans une... À être actrice, je me projette limite plus dans passer mon permis que, mais c'est surtout même si c'est un truc de pop culture, je trouve quand même que dans ce film il y a un truc qui touche assez juste sur la question de l'oppression féminine dans la société, et puis quelque chose de très libre, et puis quelque chose de très très désespéré qui est assez fondateur aussi pour moi. Et justement, cette scène finale et cette voiture dans le vide, pour moi, c'est un truc... C'est l'éternel devenir paysage possible. Un horizon permanent, voilà.
Alors, bon, avançons pour dire qu'il s'est passé un certain nombre d'années durant lesquelles, Hortense Bellotte, vous menez de front ces deux activités, comédienne pour le théâtre, le cinéma, et puis votre métier de professeur, lycée privé, école de design, d'art appliqué, professeur, vous l'êtes aussi d'art dramatique d'ailleurs, dans des conservatoires. Durant ces années-là, est-ce qu'il y a, d'une certaine façon, deux Hortense Bellotte aussi investies l'une que l'autre dans les deux champs?
Oui, il y a complètement cette idée-là, mais sans hiérarchie. C'est-à-dire que je joue le mieux que je peux. La prof, je joue le mieux que je peux la prof de théâtre. Je pense qu'il n'y en a même pas que deux, Hortense Bellotte. Il y en a beaucoup dans ces moments-là. Parce que je sens que je ne peux faire que ça. Que moi, mon être intérieur ne tient que si je joue tous ces trucs-là. Et que dans la totalité, il y a un truc où je me retrouve, mais que personne ne le sait. Cette unicité-là. Et je sais que dans le discours, quand je dis ce que je fais... On a tendance, donc ça on parle d'il y a une dizaine d'années quoi, on a tendance à me demander quel est le hobby, quel est le truc
le
pro,
vrai métier.
Quel est le vrai, voilà. De toute façon, il y avait de travail ni dans la comédie, ni dans l'histoire de l'art. En gros, c'est pas non plus des secteurs, si on veut un truc, si on souhaite le meilleur pour son enfant, on lui souhaite pas l'un ou l'autre. Enfin, à part justement dans un rêve d'ascension sociale et de... Mais globalement, il y avait quelque chose qui était pas très possible à alors que je sentais en moi que les deux avaient toujours été là en même temps et qu'ils avançaient en même temps et qu'il y avait une union. Et heureusement, ça c'est rétrospectivement que je l'ai compris, c'est que dans ces années-là, j'ai commencé aussi à m'investir dans une association de sauvegarde du patrimoine bâti comorien, grâce à Fatima Boyer, qui est une tante d'origine comorienne et qui a créé cet asso pour le classement à l'UNESCO de monuments historiques. Bref, je commence à m'investir là-dedans parce qu'elle me dit que bon bah les palais 18e des sultans, c'est pareil que Versailles et Vaux-le-Vicomte sur lequel je travaille. Je lui dis que pas exactement, mais que why not. Et puis je vais une première fois aux Comores, elle me met en contact avec une troupe de théâtre et je me rends compte là-bas, à Moutsamoudou sur l'île d'Anjouan, qu'en fait tous les jeunes gens qui ont mon âge ou plus jeune et qui font partie de la troupe de théâtre sont exactement les mêmes que ceux qui font partie de l'association de sauvegarde du patrimoine. Et ce qui avait l'air de poser plein de problèmes dans la société française ou parisienne, là, n'en pose absolument pas. Et que justement, j'y vais et je fais autant de la formation de guide touristique pour les jeunes animateurs du patrimoine, que on fait juste des exercices de théâtre, et puis on trouve un mec qui a une caméra et on tourne une série à l'eau de rose. Et en fait, tout ça, qui sont aujourd'hui ce que je fais, c'est-à-dire, on va dire, le spectacle vivant, l'histoire de l'art, l'animation du patrimoine et l'art, et la production vidéo, l'audiovisuel, eh ben, il y a des endroits où, en deux semaines, ça pose de problème à personne et tout le monde fait les trois, en fait. Et que je crois que ça en disait plus long sur l'état de nos segmentations culturelles européennes que sur ma bizarrerie en soi. Je pense que c'est quand même des domaines qui, très poreux et qui circulent depuis toujours, de tout temps, et que le domaine culturel, si c'est le mot peut-être le plus valise, qui permet de tout englober, finalement, est très simple.
Alors, du coup, côté France, gloire soit rendue au Festival du film de Fès, qui, en 2017, vous propose de présenter une conférence performée sur l'érotisme dans l'art classique. Alors, il paraît que vous aviez déjà une sorte de version bêta qui avait servi dans un enterrement de vie de jeune fille. Qu'est-ce que vous avez présenté ce jour-là au Festival du film de Fès ?
Eh bien, j'ai présenté une performance, conférence avec un vidéoprojecteur qui est un peu ma marque de fabrique, qui était ma marque de fabrique de prof, comme la plupart des profs aujourd'hui. Et j'analysais des tableaux classiques à tendance érotique. J'avais déjà préparé ça pour justement une amie conservatrice du patrimoine, parce que quand on fait un EVJF et qu'on est conservatrice du patrimoine, forcément il faut que ce soit un petit peu décalé. J'avais déjà, moi, l'habitude de faire des petits cours un peu pour mes amis. Je faisais des petits cours en appartement, parce que je m'étais rendu compte que l'histoire de l'art, c'est quelque chose qui, face auquel la plupart de mes amis se sentaient hyper illégitimes, et qu'on a vraiment ce truc de se dire « Ah non, moi j'y connais rien !» Comme si, avant même quoi que ce soit, « Ah non, j'y connais rien !» Mais personne n'y connaît rien. Donc, on y va. Et donc, je présente cette conf allié à une dramaturgie assez simple, qui est la dramaturgie de l'effeuillage et du striptease. Et donc, je termine en culotte, avec une culotte Batman, et je sauve le monde par l'alliance de la vulgarité et de la vulgarisation. Et ben, ça a fait son effet.
Ça a fait son effet.
Voilà.
Jusque chez Arte, qui vous repère à ce moment-là. Et c'est là que commence l'aventure de la série, de la web-série Merci de ne pas toucher. Des pastilles, on dit ça comme ça, j'aime pas beaucoup ce mot, des petits films de entre 4 et 6 minutes. Dire tout de suite qu'il s'agit d'un travail d'équipe. La réalisatrice Cécilia Arst, la chef-op Juliette Barra, les costumes, coiffure, maquillage d'Hugo Bardin, la déco de Loïc Vanel. Et des choix de sujets, alors, qui embrassent les grands chefs-d'œuvre de l'histoire de l'art, de Velázquez, Goya, Vermeer, Titien, Bosch, etc. Mais ces chefs-d'œuvre, Hortense Bellotte, vous nous les rendez proches. Alors, on va écouter quelques voix dans cette émission pour vous positionner, pour ou contre d'ailleurs, mais surtout pour mieux comprendre votre pratique. On va tout d'abord écouter l'historien de l'art Daniel Arras, qui parle ici de son livre « Le détail ».
Assez souvent, il y a une déperdition entre leurs pratiques personnelles d'historiens. Je parle bien sûr toujours d'historiens de la peinture classique, du 15e au 19e siècle. Il y a assez souvent, me semble-t-il, une sorte de déperdition entre les rapports même de conversation qu'on peut avoir entre spécialistes et le goût très profond qu'il y a de cette peinture, et la manière à les regarder avec une avidité, une passion très grande, et puis une déperdition dans le discours ou le récit ou l'analyse historique qui, trop souvent à mon avis, remet le tableau à distance, le remet sur son mur de musée ou le remet dans sa reproduction dans le livre et oublie dans le fond ce qui a déclenché le désir de recherche. Il y a une phrase de Chastel que je cite au début, je trouve à la fois très, très belle et en même temps paradoxale, quand Chastel dit « le détail alerte et déclenche l'historien ». Je crois que la formule est très juste, mais en même temps il y a une sorte de système d'alarme dans cette phrase. Le détail alerte et déclenche, c'est un peu comme si l'historien était le pompier qui doit aller éteindre le feu que peut faire le détail. Alors, effectivement, il y a des détails scandaleux que les historiens s'entendent à très bien éteindre, c'est-à-dire qu'ils les mettent à leur place et on les comprend. Un escargot, par exemple, rampant au pied de la Vierge en Annonciation, bon, eh bien, au départ, ça surprend, ça peut choquer. Quand on sait que c'est un symbole, l'iconographie qui veut dire telle chose, on a calmé l'incendie possible. Mais on a oublié, en même temps, que l'escargot avait surpris, choqué, fasciné, et avait aussi donné, éventuellement, plaisir au départ à l'historien. Donc c'est un peu ça, essayer de rapprocher le texte historien de l'expérience de la peinture et donner aussi, répondre un peu à ce qu'on constate aujourd'hui, qui est l'intensité de la relation affective entre les spectateurs, même quand ils ne savent rigoureusement rien d'un tableau classique, et l'intensité d'émotion que peut donner certains tableaux. Donc qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Comment est-ce que l'historien peut essayer de rendre compte de ce genre de phénomène qui relie, encore une fois, le tableau, les tableaux aux spectateurs? Mais c'est bien pour une histoire rapprochée de la peinture, je prétends pas du tout avoir épuisé, c'est plutôt une sorte de proposition, de programme de recherche.
Alors cette déperdition du plaisir du chercheur lorsqu'il passe au discours qu'évoquait Daniel Arras, c'est ce contre quoi vous luttez, si je puis dire, Hortense Bellotte, que ce soit pour parler de peinture, mais aussi de la performance dans la danse contemporaine ou de l'importance de l'année 1664 dans l'histoire. Alors la question c'est, est-ce que vous avez mis au point une méthode de travail? On imagine bien que ça commence par une grande plongée documentaire dans des textes, des archives, dans le fait de regarder très 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 précisément l'œuvre sur laquelle vous travaillez, mais il y a la question de la mise en forme. Alors, évidemment, la web-série, c'est pas une conférence spectaculaire, alors peut-être commencer par la web-série. J'avais envie de prendre un exemple qui serait au hasard, tiens, le Jardin des Délices de Jérôme Bosch, qui est si foisonnant, si étonnant, si fascinant. Vous l'avez traité en 5 minutes. Je l'ai vu, revu. Comment ça se construit?
Ce qui motive tout, c'est comme le dit Arras, c'est le désir de recherche et l'incendie. Ça, c'est très joli ce mot-là, ouais, d'incendie. C'est vraiment ça, c'est une pulsion désirante. Après, moi, justement, je suis là où j'aime beaucoup Daniel Arras, mais j'ai pas du tout cette démarche du détail. Lui, son érotisme passe par le détail. Moi, j'ai un érotisme inverse qui serait peut-être quand même l'opposé. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'histoire des représentations, l'histoire des idées. Et donc, à la fois, la recontextualisation historique d'une œuvre dans un champ social, économique plus vaste, et aussi l'histoire du temps passé depuis cette œuvre-là et de ses résonances cumulées et de cet aller-retour permanent qu'on est obligé de faire en tant que spectateur aujourd'hui entre ce que l'on voit, les images associées, nos fantasmes sur cette période passée, etc. Et en fait, notre rapport à l'image est composé de toutes ces couches-là cumulées à l'intérieur desquelles notre émotion est très très dynamique. En fait, je pense que même les historiens de l'art qui essayent au maximum de désérotiser leur rapport à leur objet d'étude, je pense qu'ils n'y arrivent pas. Voilà. Moi, je crois que quand j'étais étudiante, j'avais répondu à un débat comme ça croisé dans la revue Perspective, où je disais que moi, mon grand jeu, c'était quand même de... Quand je regardais des profs parler de leur sujet, je me disais, mais quel est l'élément biographique qui les a amenés à passer 6 ans, 10 ans, 15 ans de leur vie sur ce sujet-là. Et il existe forcément, puisque sinon ils n'auraient pas passé autant de temps. Et je crois qu'on finit toujours par le trouver. Mmh. Voilà. Donc, mais après, je crois aussi malheureusement qu'il y a une force presque politique. Il y a Foucault qui parle de ça à un moment, qui explique comment. Il y a des gens qui ont intérêt à ce qu'on ne sache pas que le savoir donne autant de plaisir. Et que sinon il y aurait des queues et des queues à l'entrée des universités, des musées ou quoi machin. Il y a une volonté de désérotiser le savoir. Donc c'est ça. Disons que ça part à la fois de moi, mon propre plaisir, de mon rapport à l'œuvre, et puis de légitimer aussi tous les autres regards en assumant le mien. Mmh. Il y a quelque chose de libérer un petit peu le discours, et donc ma méthodologie, elle est passée par une sorte de d'assumer toutes les associations d'idées et d'assumer la multiplicité des références qui viennent à l'esprit spontanément lorsqu'on voit une œuvre. Et en fait, c'est ce que tout le monde fait. Si on s'autorisait à être en parole libre et en écriture automatique lorsqu'on regarde une œuvre, eh bien, viendrait se percuter une référence cinématographique, un personnage qui ressemble à ta grand-mère, un savoir qu'on a lu dans un livre, et un petit peu d'imaginaire et de projection. Mmh. Eh bien, ce que je fais dans Merci de ne pas toucher, c'est de dire, OK, allez, on traite tout d'un coup. Et on va essayer à la fois, en 4 minutes et demie, d'évoquer le contexte de création. Tous les épisodes commencent par une date. Mmh. Et d'évoquer quelques détails du tableau quand même, de le comparer à d'autres tableaux, puisque ça, c'est aussi une méthodologie classique d'histoire de l'art. Je fais vraiment partie de cette école qu'on ne peut pas faire d'histoire de l'art sans comparer. Et puis, d'assumer des références au monde contemporain et qui sont en fait des sortes de références autobiographiques biaisées, enfin un peu mises en scène. Parce que là où dans mes conférences performées, je raconte vraiment ma vie.
Oui.
Et ben dans la version vidéo, ça pouvait pas trop passer cet élément autobiographique, donc on l'a transposé dans une mise en scène dans un décor contemporain, mais qui est un décor de la banalité,
l'apéro, la laverie,
c'est ça, voilà, et des choses que je peux faire vraiment moi avec mes amis dans ma vie. Et puis tous les comédiens autour, en fait, c'est mes amis vraiment avec qui je fais généralement ce genre de truc, enfin ou plus ou moins. Donc il y a un petit truc où quand même je joue une scène qui est quand même de l'ordre de l'intime, et de voir comment tout ça peut non seulement coexister, mais participer d'un même mouvement. Et d'où cette espèce de fin de chaque épisode en tableau vivant qui vient comme unir toutes ces strates dans une recomposition du tableau et qui va au-delà des contradictions supposées.
Alors, je vais reprendre certains éléments, Hortense Bellotte, pour cette riche réponse, très éclairante. On en parlera plus précisément dans un instant, Portrait de famille, les oubliés de la Révolution française, vous permet encore une fois de parler de vous, de dire je, de parler de votre famille. Ça commence avec votre arbre généalogique. De dire je, évidemment, c'est quelque chose qui rapproche le spectateur, qui dit je ne suis pas en position de surplomb, je suis avec vous, je suis cette personne. C'est une façon de produire un savoir, mais en le donnant à voir, pas en étant au-dessus de votre public. Cette notion aussi importante de la web-série, le décalage entre lieux de tournage, on vient de l'évoquer, très très contemporain, et cette fin qui est un tableau vivant. Le tableau vivant, c'est bien sûr ce moment où, avec vos camarades de jeu, vous reproduisez dans la gestuelle le tableau dont vous parlez dans cet épisode. Mais alors, je fais un petit détour pour écouter Geneviève Fraisse, qui commentait en 2019 sur France Culture le geste de la performeuse Déborah de Robertis, qui avait exposé son sexe. C'était exposé nu sous le tableau L'origine du monde de Courbet, que vous avez d'ailleurs traité dans Merci de ne pas toucher. On écoute Geneviève Fraisse.
Elle continue une histoire ancienne qui était ce passage à la fin du XIXe siècle de modèle à artiste. ce qu'ont fait un certain nombre de femmes. De Berthe Morisot à Suzanne Valadon et beaucoup d'autres. Elles sont modèles, puis elles deviennent peintres elles-mêmes. Mais là, on était dans une subversion, disons, forte et magistrale, mais simple. Ce que fait Déborah de Robertis, c'est de devenir ce sujet qui va représenter l'objet. Ce geste, c'est le geste de l'appropriation d'être artiste ou d'être une citoyenne. Et c'est le geste aussi de réappropriation de ce qu'il y a sur le mur du musée, à savoir une origine du monde. Elle veut que le sexe féminin redevienne donc acteur. Au XXIe siècle, le corps des femmes est clairement un outil. Ce que je dis ne va pas suffire, donc mon corps peut-être être aussi un moyen de dire. Nos seins, une arme, disent les femmes. Je ne sais pas si elles le diraient exactement de la même façon aujourd'hui, mais moi, ce que je lis chez elles, c'est aucune exhibition, bien sûr, mais l'idée que seul leur corps va leur permettre de pouvoir dire quelque chose. En ce sens, elles vont se rapprocher des artistes comme Déborah de Robertis, même si elles n'ont pas l'idée de faire un geste artistique elles-mêmes. Mais ça participe de quelque chose. Et donc cette subversion, on l'a vue au Mexique avec des femmes qui avaient perdu leur terre, qui défilent nues parce qu'elles disent « seule la peau me reste ». On l'a vu en Argentine, on l'a vu en Chine, on l'a vu en Afrique. Donc c'est à la fois, si vous voulez, ça peut être banalisé comme la possibilité au fond d'exposer sa nudité dans l'espace public, d'exposer ou en tout cas d'assumer sa nudité tout en espace public, mais ça peut être aussi un geste politique. Si on me vole tout, il me reste ça. C'est aussi un écran. C'est là aussi que je peux écrire quelque chose comme le font les femmes.
Alors il y a vraiment, comme toujours avec Geneviève Fraisse, beaucoup à dire après l'avoir écouté, Hortense Bellotte, mais quelques points qui font écho à votre pratique. Alors, vous parliez de la question de la pratique de l'effeuillage tout à l'heure, qui est très présente toujours dans vos conférences performées. Là encore, c'est aussi une façon de vous situer, mais c'est aussi instaurer un autre rapport avec le spectateur. C'est une fragilité. S'il ne me reste que la peau, je ne suis pas celle qui vient avec ma robe du savoir. Il y a quelque chose comme ça.
Exactement, oui. Et bon, déjà, merci d'avoir mis Geneviève Fraisse, parce que je pense que la France lui doit...
La queen.
Énormément, ouais, grave. Queen, cœur sur elle, comme on dit aujourd'hui. Et sur la question de la nudité, moi, je me suis beaucoup interrogée, et puis même, on m'a beaucoup interrogée là-dessus. D'abord, parce que c'est quelque chose d'assez spontané chez moi, c'est quelque chose que j'aime faire, et donc que j'ai pas tout de suite mentalisé. Dans tout ce que ça peut évoquer, dans tous les sens que ça peut avoir. D'une part, il y a le petit tomboy que j'étais qui ne comprenait pas pourquoi une petite fille ne peut pas être torse nue. Mmh. Tout simplement. Là, je crois qu'il y a une base, c'est ça. La vraie base de tout, c'est ça. Une autre chose, c'est d'utiliser, effectivement, un petit peu comme elle le dit, la nudité comme un micro, c'est-à-dire comme un porte-voix, parce que ça, c'est efficace. Ça fait de l'effet et ça marche. Et donc, dans un contexte de lutte, on est assez pragmatique. Et on prend ce qui marche. Ensuite, alors, ce glissement du modèle à l'artiste, moi, je m'y retrouve pas vraiment. Et justement, parce que, en fait, moi, je suis encore plus présomptueuse que ça. C'est que, même en tant qu'interprète comédienne, je suis pas vraiment une interprète. Moi, je suis pas comédienne. J'ai vachement de mal à me glisser dans les rôles des autres. Voilà. Je dis bien que ce que j'écris. Et par contre, moi, c'est plutôt c'est pas les feuillages du modèle, ce serait plutôt les feuillages de la bibliothèque. Moi, ce que je veux, c'est incarner l'histoire de l'art en entier. Devenir l'institution, devenir le corpus. Et c'est là où moi je crois que j'utilise plus mon corps comme un corpus et faire une institution éphémère de mon corps et de mon histoire qui est assez ridicule. Enfin, je ne ressemble pas au musée du Louvre ou à la grande bibliothèque d'Alexandrie, mais en fait on a cette capacité d'être une petite bibliothèque comme ça d'un coup. Et avec cette idée, comme elle dit, sur les femmes qui écrivent sur leur corps, il y a cette chose-là. Et comme le petit tatouage que j'évoquais, l'art du tatouage, il y a ce truc-là aussi, de pouvoir devenir soi-même porteur de sens et cumuler des sens et les faire se mouvoir en même temps. Et j'ai utilisé cette expression de dévoilement du corpus. Il n'y a pas longtemps, là, pour un colloque à l'Université de Nanterre sur les oralités littéraires. Et je crois que c'est vraiment ça. C'est-à-dire que, en même temps que je dévoile ma peau, mon corps, que j'enlève des vêtements et qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'érotisme, je dévoile aussi mon corpus, c'est-à-dire corpus au sens universitaire, donc mes sources. Et là où, normalement, il est traditionnellement établi que, oui, les chercheurs disent leurs sources, avec les notes de bas de page, etc. Mais dans la vulgarisation ou quoi, on ne dit pas ses sources. Il y a quelque chose et qui fait que la vulgarisation est quelque chose de très dangereux et de très gênant. C'est qu'on n'est jamais vraiment sûr des sources. Aujourd'hui, à l'heure des fake news et de Internet ou quoi, c'est un sujet encore plus important. Et pour lutter contre tout ce qui serait de l'ordre de l'argument d'autorité ou des violences de classe intégrées ou des dominations culturelles, en fait, dévoiler ses sources, c'est déjà c'est quelque chose de très important, à la fois du point de vue de l'honnêteté et puis du point de vue situé. Ça revient à la question du jeu, de pourquoi on utilise le jeu. C'est aussi une honnêteté humaine, mais morale, mais intellectuelle, surtout si on veut arriver à la vérité, disons, en tout cas quelque chose qui pourrait s'y comparer. Il faut quand même soi-même être assez conscient de notre parcours. Et dans les films, dans le fait que je parle de ma vie, etc., je sais que c'est un petit peu... avant, j'appelais ça la technique Forrest Gump. C'est-à-dire, c'est un peu s'utiliser soi-même comme un individu un peu lambda, un peu outsider, mais qui tout d'un coup va parcourir tout le monde. Et puis, dans sa petite bio, tout d'un coup, son corps va devenir l'histoire du XXe siècle. Et plus que Forrest Gump, maintenant, j'ai trouvé une autre source, c'est Slumdog Millionaire. Oui, j'ai une culture cinéma très pop, mais au moins ça parle aux gens. Slumdog Millionaire, c'est vrai que moi, je me suis toujours demandé, c'est vraiment ce truc de, où on se dit, quand je regardais Question pour un champion avec ma grand-mère, je me disais, mais. Comment tous ces gens, à quel moment ces gens-là dans leur vie ont eu l'occurrence de cette information sur, je sais pas, l'orthographe d'un fromage de fin fond de la. Je me dis mais c'est quoi leur vie? Et ce film interroge ça justement de dire en fait à quel moment dans une petite vie humaine d'existence on peut avoir accès à tout un tas d'informations et que si on les dévoile alors ce film fait ça, c'est un petit peu un dévoilement du savoir. Et on va déplier tout ça, et au fur et à mesure de comment on est arrivé à telle ou telle source, ça en dit long aussi sur qui on est et sur ce qu'on va faire du savoir après.
Alors, on va revenir à Courbet dans un instant, puisqu'on va revenir au musée d'Orsay, mais avant cela, et pour y aller, on va écouter votre choix musical, qui s'est porté sur un morceau d'Anaïs Rosso, Oyo qui m'en appelle, parce qu'elle fait partie de celles qui ont collaboré avec vous, quelques mots peut-être sur elle.
Oui, Anaïs Rosso, c'est une musicienne qui avait collaboré avec moi sur Portrait de famille dans un premier temps, avec une chanson, et puis là qui va être vraiment musicienne au plateau pour la version spectacle de l'Escape Game au musée d'Orsay.
On écoute.
Thank you.
Anaïs Rosso qui sera avec vous dans l'auditorium du musée d'Orsay pour une version alors, qui sera différente que la déambulation, mais alors je vais parler de l'origine du monde de Courbet qui est au musée d'Orsay, dont vous êtes artiste invité en résidence, Hortense Mellotte. Alors ce 19e siècle finissant, c'est pas le meilleur moment pour les femmes, c'est pas le meilleur moment pour les noirs, c'est pas le meilleur moment pour les ouvriers, c'est pas le meilleur moment pour beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens, sauf pour les très riches et très puissants. Donc s'emparer de ce lieu-là et en faire un escape game, c'est une chose. Alors bon, là c'est complet. La forme que vous allez proposer en salle, est-ce qu'elle a vocation peut-être aussi à voyager? Vous en êtes tout de ce travail-là?
Cette forme en salle, elle a vocation à voyager. C'est une commande du musée d'Orsay, donc ça va jouer dans l'auditorium, mais après ça peut jouer dans n'importe quelle boîte noire, l'idée étant de faire l'appareil, comme une espèce de petit musée transportable et éphémère, et donc qui va jouer très probablement l'année prochaine, on sera à l'espace 1789 à Saint-Ouen et puis au théâtre de Gennevilliers.
Espace voilà. 1789, vous avez créé Portrait de famille, ouais. Les oubliés de la Révolution française. De la même façon, je disais que ce musée d'Orsay vous permet de parler de beaucoup de sujets sociaux, politiques, économiques, comme une histoire du football féminin qui continue à se promener, qui est évidemment pas qu'une histoire du football féminin, on l'aura compris, mais une histoire peut-être de la condition des femmes au XXe siècle, puisque ça revient sur le premier championnat de France de foot féminin en 1919, vous l'avez créé en 2019, celui-ci. Portrait de famille, alors c'est une des actualités les plus proches. C'est le programme Hors les murs du Théâtre de la Bastille. Ce sera au lycée polyvalent Simone Veil, lundi et mardi prochain. Là, c'est quoi le point de départ de la proposition? Est-ce qu'au départ d'une conférence performée, est-ce qu'il y a une question?
Parfois, au départ de mes conférences performées, il y a une commande thématique à laquelle je m'adapte avec en arrivant avec toute ma vie et tout ça. Donc je l'adapte, je la détourne. Et là, celle-ci, justement, c'était pas une commande, c'est une proposition de l'espace 1789, Elsa Sarfati, qui m'a proposé de m'accompagner sur mon prochain projet. Et je me suis donc été très ouvert et j'ai en fait ressorti des recherches que j'avais faites il y a 10 ans. Dans l'objectif de publier un livre, je me disais que c'était ça qu'il fallait. Et qui était sur ces personnages oubliés de la Révolution française. Donc en fait, là, toutes les recherches, je les avais faites il y a donc un peu plus de 10 ans maintenant, donc en 2012-13, j'ai fait ça. Et c'était une époque, si on peut déjà parler d'époque, oui. Où les questions
d'invisibilisation,
voilà, c'est ça, de regard minoré, etc., était beaucoup, beaucoup moins présent.
En France,
bien sûr. Mais dans la bibliographie aussi, c'était beaucoup moins présent dans la bibliographie historique. Mmh. Et donc, en faisant ces recherches-là à l'INHA, etc., j'ai découvert tout un tas de personnages et d'ouvrages universitaires que je connaissais pas et je me suis dit que c'était un scandale, que personne les connaisse et qu'il fallait absolument les réhabiliter, mais juste les réhabiliter, pas dans le sens de l'héroïsation justement, mais plutôt de revenir complexifier un petit peu le débat. Et avec cette triade un petit peu iconique que sont les femmes, les noirs, les queers et globalement des personnes minorées et qui dans le débat actuel sont censées relever de ce qui serait la modernité de notre société. Et en allant reconstruire cette petite communauté, enfin en tout cas cette petite société-là, il y a des siècles, et surtout au moment du 14 juillet 1789, qui est censé être le point de naissance même de la France, et ben on fait s'effondrer sur lui-même cet argument de la modernité. Et donc, la modernité, qu'est-ce qu'elle suppose? C'est une potentielle angoisse. C'est-à-dire que globalement, la société serait répartie entre ceux qui pensent que c'est nouveau, mais que tout va bien se passer, et les autres qui pensent que c'est nouveau, mais c'est hyper dangereux. Mais en fait, c'est pas nouveau. Donc, du point de vue rhétorique, c'était assez intéressant de travailler justement sur cette période-là iconique de la Révolution française, qui n'est pas ma période de prédilection, moi, au départ, mais qui était quand même pas loin. Et qui est quand même une période où il y a c'est un peu une idée d'une parenthèse enchantée, de quelque chose où tout ça aurait pu se passer autrement, en tout cas dans l'héritage. Et sans revenir sur le fameux 19e que vous avez très bien décrit.
Alors, juste, pardon, une question un peu grande, mais une courte réponse, Hortense Mellotte. Sur ce sujet-là, des oubliés, est-ce que vous êtes contrainte de faire des mises à jour? Parce que c'est vrai que les travaux ne cessent, et c'est tant mieux, d'être publiés. Il y a des chercheurs qui travaillent, chercheuses qui travaillent sur ces sujets-là. Est-ce que ça veut dire que ce spectacle-là, celui-là, en l'occurrence, c'est un organisme vivant qui a vocation à être peut-être enrichi?
Les personnages sur lesquels je me suis arrêtée pour ce spectacle, ils sont 12. Et donc, c'est ces 12-là. Et finalement, pour parler de 12 personnes en une heure, eh ben, c'est des petites bios encore plus courtes que ma réponse. Mmh. Donc, de toute façon, j'ai pas le temps de rentrer non plus dans l'actualité de la recherche m'aide beaucoup. Ce qui est nouveau aujourd'hui, là où je peux actualiser, c'est ma bibliographie de vulgarisation. Parce que là où il n'y en avait absolument pas il y a 10 ans, maintenant, la vulgarisation autour de ces figures-là commence à être disponible.
Bon, il nous faudrait une semaine spéciale avec vous, Hortense Mellotte, mais on respecte l'horaire de cet entretien. Alors, je rappelle que Portrait de famille... Oui, pardon.
Oui, Portrait de famille va se rejouer, comme c'est complet pour La Bastille. Ah. Ça se rejouera, en fait, l'année prochaine au Théâtre de l'Atelier. On va faire une reprise.
Eh ben, voilà une bonne idée.
Il y aura Portrait de famille et 1664, la nouvelle création, qui seront au Théâtre de l'Atelier à la saison prochaine.
Ça, c'est très bien. Bon, si c'est complet. Histoire de graffeuse, 17 avril, après-demain, Montataire, vendredi à Amiens, aux Beaux-Arts de Rennes, en septembre. Et puis donc, à Orsay, du 30 mai au 2 juin 2024, pour la version, on va dire, spectacle dans l'auditorium de cet Escape Game 19. Et puis, Histoire du football féminin, 14 juin au Théâtre National de Chaillot. Le lendemain, ce sera Et la marmotte, on n'en a même pas parlé. Une histoire du football féminin à nouveau, le 28 septembre à Pont-Évêque. Et puis, les deux saisons de Merci de ne pas toucher sur Arte TV. Merci beaucoup, Hortense Mellotte, d'avoir été notre invitée.
Merci beaucoup à vous.
France Culture. Affaires culturelles. Arnaud Laporte.
En 2016, Frank Ocean sortait Blonde, l'un des albums les plus influents de ces 10 dernières années, et sur les crédits figurait un certain Joseph Thorne. Dans la droite lignée de son père, Phil, ingénieur du son et musicien à qui l'on doit entre autres l'album Pornographie des Cure, Joseph s'est lancé dans la production musicale. S'il loue ses services à Travis Scott ou Kelly Chase, il mène sa barque en solo sous l'alias Vegin. Plus expérimental que les grands noms de la musique électronique outre-Manche, tel Fred Again ou Jamie XX, il a fondé sur son propre label, PLZ Make It Rings, sur lequel il édite sa musique. Son nouvel album « The road to hell is paved with good intention » témoigne d'un sens profond de la mélodie, d'un goût exacerbé pour les breaks de batterie. Entouré d'une poignée d'artistes invités à chanter sur ses morceaux un brin nostalgique, Joseph Thorne semble avoir trouvé sa voix. « Another 9 Days », produit en collaboration avec le jeune Ethan P. Flynn, est notre son du jour.
Do I get another spin? 9 days of life. Another 9 days of life. It's only a short time before I get wise. Another 9 days of life. Another 9 days of life. It's only a short time before I get wise.
C'était Another 9 Days de Vigan featuring Evan P. Flynn.
France Culture, le grand tour, le grand tour. Marie Sorbier.
Bonsoir, chère Marie, où êtes-vous pour commencer cette semaine ?
Bonsoir Arnaud, je suis à l'abbaye de Noirlac, centre culturel de rencontre depuis 2008 dans le Cher. Alors l'abbaye n'abrite plus de moines cisterciens depuis bien longtemps, mais leur rend hommage. Le silence et l'écoute, piliers de la règle monastique pendant des siècles, est aujourd'hui sublimé par un travail gracieux sur le son et les arts de la parole. C'est donc désormais un parcours sonore, conçu par des compositeurs contemporains, qui accompagne les visiteurs.
Bienvenue, merci d'être là aujourd'hui à l'abbaye de Noirlac. Je suis Elisabeth Sanson, la directrice. Peut-être pour commencer, vous dire un mot sur là où vous êtes. Donc Noirlac est une abbaye cistercienne qui a été fondée en 1150 et qui a accueilli donc des moines pendant des siècles jusqu'à la Révolution française où elle a été désacralisée après le départ des moines. Et elle a eu ensuite d'autres usages, notamment au XIXe siècle, c'était une usine de porcelaine. Et puis elle accueille des réfugiés espagnols en 1939. Et puis elle a été acquise par le département du Cher en 1909. Et il y a eu des vagues de restauration qui ont permis de lui donner cet état remarquable, puisque c'est l'une des abbayes les mieux conservées d'Europe. Donc vous dire que c'est un centre culturel de rencontre depuis 2008, donc depuis mon prédécesseur Paul Fournier, qui est à l'origine aussi de la labellisation de Noirlac en 2008. Donc il était arrivé en 2007, il est resté 15 ans, et son projet était sur le fait sonore, c'est-à-dire le son. Le son sous toutes ses formes, la musique évidemment, mais aussi la création sonore, l'écoute, la recherche au niveau du son, les rencontres sonores. Et pourquoi le son ? C'est un héritage aussi peut-être qu'on peut aller chercher chez les cisterciens, donc qui était un ordre religieux qui était vraiment basé sur la question de l'écoute et de la non-représentation visuelle même de la religion. C'est-à-dire qu'à l'époque du Moyen-Âge, on représentait beaucoup les scènes religieuses sur des fresques ou sur des vitraux. Ici, pas du tout, justement parce qu'on considérait que l'ouïe était supérieure à la vue et que les moines devaient se concentrer sur la spiritualité à travers le chant et l'écoute de la parole sacrée. Et donc cette question de l'ouïe est un héritage, et toute l'architecture finalement cistercienne, elle nous invite à une intériorité, et que le visuel parfois peut nous détourner de cette intériorité. C'est un projet qui croise justement le projet artistique et le projet touristique. Mais maintenant, les touristes, les visiteurs, toute l'année, vont avoir accès au projet artistique de Noirlac grâce à cette visite sonore, qui est donc une initiative de Paul Fournier. Et donc, il a fait des commandes à différents compositeurs en leur proposant de dialoguer avec les acoustiques de Noirlac et avec son histoire. Ce qui était important, c'était que les visiteurs puissent se rendre disponibles. Donc, on a tout mis en œuvre qui n'ait pas besoin ni de casque, ni d'objets connectés, de QR code, je ne sais quoi. Ils arrivent les mains dans les poches, ils peuvent se débarrasser de toute préoccupation et juste se laisser guider par le son.
Là, on entre dans le cloître.
Voilà. Donc là, nous arrivons dans le cloître. La création sonore du cloître, c'est Luc Martinez qui l'a réalisé. Il s'agissait... Donc le cloître, c'était l'endroit où les moines se promenaient. Donc ils faisaient la lecture aussi à voix haute ou à voix mi-haute. Et le jardin de Gilles Clément, qui s'appelle Les Reflets du Ciel, est un hommage au fait que c'était le seul endroit où les moines qui étaient clôturés voyaient le ciel. Et donc c'est un dialogue entre les nuages, d'ailleurs on a des beaux nuages aujourd'hui, et le sol, puisque vous le verrez depuis la terrasse, mais la composition florale est en forme de nuages, les bosquets. Et les couleurs choisies sont des nuances de bleu.
Là, on entre dans une nouvelle pièce, c'est le dortoir.
Le dortoir des Converts, dans lequel une pièce a été proposée à Fernand Desroussen, qui est audio-naturaliste, et Thierry Bech, électroacousticien. L'idée, c'est de reproduire les sons, les sons du bocage. Fernand a capté à toutes les saisons et à toutes les époques les sons des oiseaux, mais aussi de la rivière, de la prairie. Il a reconstitué un bocage idéal, on va dire, dans ce dortoir. Et on peut se promener dans les différents espaces. Et on n'entend pas la même chose selon la source sonore. Il y a à peu près 36 haut-parleurs installés dans cet
espace. Cachés dans le dortoir. Voilà. Alors, ce dortoir, c'est une salle magnifique avec une charpente de bois très haute en ogive. Et quand on déambule dans ce dortoir, on entend en effet tantôt la rivière, tantôt des oiseaux, toute cette faune locale qui a été enregistrée et archivée dans une phonothèque.
L'église, donc, ce sont des duos pour solistes, donc des solis qui dialoguent avec l'acoustique de l'église. Donc il y a 8 interprètes-compositeurs qui vont du chant à la flûte cavale, en passant par le serpent, le violoncelle. Il y a un chœur aussi reconstitué. Et donc en fait, chacun des instrumentistes ou des solistes a composé pour cette acoustique. Donc là, ça a été enregistré à sec, on va dire. Et là, ça résonne. La résonance que vous allez entendre, elle est due à l'espace sonore dans lequel on est. Voilà.
Alors en sortant de cette grande abbatiale qui propose donc ces 80 créations contemporaines, elles sont entre 1 minute et 5 minutes diffusées de façon aléatoire, et bien on se retrouve dans le cloître, dans le jardin de Gilles Clément. C'est une visite qui appelle en fait à la contemplation, à la méditation, le fait qu'il n'y ait pas d'image ou d'information textuelle mais uniquement du son invite en fait les visiteurs à s'asseoir dans tout le parcours et à juste se laisser porter par toutes ces ambiances sonores, qu'elles soient d'ailleurs musicales ou relatives à la vie des moines. En fait, c'est une visite qui permet de comprendre par le sensible et par l'expérience sonore la vie de cette abbaye.
Viens, Je m'appelle David Sanson, je suis programmateur musical à l'abbaye de Noirlac, centre culturel de rencontre, à raison de 2 jours par semaine.
Alors à quoi ça correspond votre fonction ici? On l'a entendu, c'est un lieu dédié au son, à tous les sons, au son au pluriel. Vous, concrètement, votre mission, c'est quoi? C'est d'aller chercher des compositeurs, des artistes pour venir travailler ici?
C'est déjà de répondre à un très gros flux de sollicitations qu'on reçoit de la part des artistes qui ont envie de venir jouer ici. Cette année, il y a à peu près 25-30 équipes en résidence. Et puis, au total, la programmation musicale, c'est une trentaine de concerts par an.
Alors, comment vous avez choisi votre axe de programmation? Quelle couleur vous donnez aux sons qui sont ici travaillés?
Alors, l'idée, c'était déjà de rester un peu fidèle, enfin de marcher dans les pas de Paul Fournier, de ce que lui avait construit en tant que directeur avant. Donc avec aussi toujours un accent assez fort mis sur la création, parce que c'est vrai que par mon parcours, je suis plutôt sollicité par des artistes qui travaillent dans le domaine de la musique contemporaine ou expérimentale. Et puis aussi en l'ouvrant plus au folklore, aux musiques traditionnelles françaises. Parce qu'il y a eu beaucoup de musiques de tradition extra-européenne qui ont été présentées ici, mais assez peu de folklore français, alors qu'on est dans une région où c'est quelque chose de très vivace, avec les folklores des différents pays, on se rend compte qu'ils se répondent beaucoup, qu'ils ont des caractéristiques communes.
Suite du grand tour demain, Marie Sorbier, où serez-vous?
Demain, Arnaud, direction Liévin, dans le Pas-de-Calais, pour une visite exclusive du Centre de conservation du Louvre.
Encore une exclue. Merci Marie, à demain. Cette émission, comme toutes celles de la chaîne, est à écouter ou podcaster sur le site de France Culture ou via l'application Radio France. Émission préparée par Boris Pino, Anouk Minaudier, Jules Barbier, Marceau Bassi, Lise Ripoche et Emma Roberti.